Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop. Le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du camp pop. Sur la planète Trill, la capitaine Burnham, Booker et le docteur Culbert doivent passer un test dangereux pour prouver qu'ils sont dignes du prochain indice. Tandis qu'Adira renoue avec Grey et que le premier jour de Saru en tant qu'ambassadeur est plutôt compliqué. C'était le résumé de l'épisode 3 de la saison 5 de Discovery et on va en parler dans l'heure qui vient. Let's fly!
We're on a search for one of the greatest powers ever known.
The technology, it could have incredible applications.
Protecting him.
What was that?
Nothing is more important.
Power of creation, here we come.
We are gonna find the progenitor's tech.
Could have just said hello.
You could have just left us the hell alone.
It could be a suicide mission.
I'm afraid a lot.
Change can't be hard.
We're on this quest to find the thing that created us.
It's kind of beautiful in a twisted sort of way.
We're only gonna get one shot at this. Make it count.
This is insane.
Here we go.
One last mission to say goodbye.
What do you think happens when we finally put this thing together?
I don't know. But I can't wait to find out.
Working. Et pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Elle était déjà là le mois dernier pour discuter rapidement de la saison 2 de Prodigy, c'est l'ambassadrice Giraffe. Salut Giraffe.
Salut, ça va ?
Ça va très bien, merci d'être là. Toujours fidèle au poste sur notre Discord pour faire des commentaires et mener des débats endiablés, c'est notre ingénieur en chef Yasmine. Salut Yasmine.
Salut, salut, salut !
Si vous avez du bol, vous avez dû l'entendre sur nos premiers épisodes de X-Files, et si vous n'avez pas de bol, vous avez dû l'entendre sur nos derniers épisodes de X-Files. C'est Mehdi, salut Mehdi.
Salutations à tous.
Ouais, t'es content d'être là, j'imagine.
Je suis ravi.
Alors, avant de commencer à parler de Star Trek Discovery, il y a une petite news qui est sortie, là, il y a quelques jours. J'avais envie de faire un petit point avec vous, au moins pour prendre la température de ce que vous en pensiez. C'était lors de la présentation au CinemaCon à Las Vegas, il y a deux jours, le PDG de Paramount Pictures a révélé que prochainement, il y aurait une mise en production d'un nouveau film qui se déroulerait des décennies avant le film Star Trek de J.J. Abrams, celui qui a été fait en 2009. Et ça serait Toby Haynes qui a réalisé des épisodes de la série Andor et l'épisode de Black Mirror USS Callister et aussi des épisodes de Doctor Who qui sont parmi mes préférés, avec un scénario de Seth Graham Smith qui a fait le Lego Batman, et là ça fait un peu plus peur parce qu'il a fait d'autres trucs un peu plus chelous, enfin en tout cas c'est quelqu'un qui a fait plein de trucs différents, et avec toujours J.J. Abrams qui revient en tant que producteur, ça rassure pas forcément tout le monde non plus. Je voulais avoir votre sentiment, parce que là si ça commence à se mettre en production maintenant, on peut imaginer que ça sortirait pour les 60 ans et que ça pourrait être une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Giraffe?
Écoute, je vais y croire quand je le verrai. Parce qu'on en est à quoi, notre 50e annonce de Paramount nous disant qu'ils font un film. Donc,
Remulier n'est chaudé, craint l'eau froide, c'est ça?
Ouais, et puis je comprends pas, ça peut pas être Star Trek 4. Parce que tout simplement, si c'est dans le passé, comment c'est possible que ce soit le Calvinverse? Il commence complètement qu'autre chose en fait.
Ah bah oui, pour moi c'est ça, hein, c'est qu'ils prennent des personnages inédits. Qui se passe des décennies avant. Alors, ça veut tout et rien dire. Est-ce que ça se passe un siècle avant, seulement quelques... Est-ce que c'est contemporain, par exemple, de la scène d'ouverture du Kelvin Timeline, de la Kelvin Timeline, tu sais, avec le père de Kirk, tout ça, le SS Kelvin?
Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont faire ça bien avant, parce qu'ils peuvent pas avoir le cast. Ils peuvent pas avoir, Chris Pine, etc. Ils ont pas l'argent.
Ouais, mais sans avoir le cast, ils pourraient très bien se dérouler dans cette période-là avec des personnages inédits.
Ouais, mais sans le cast, ils le feront pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont faire un truc complètement déconnecté. Bon, moi j'adore Star Trek, soyons honnêtes, donc j'irai le voir. mais j'attends de savoir pour de vrai. Et je sais pas si vous avez vu la news qui vient de sortir il y a littéralement 5 minutes, hein, que Star Trek Lower Decks, c'est leur dernière saison cet automne.
C'est officiel.
Ça y est, c'est officiel. Finesse. Sur Star Trek on Paramount Plus. The final season of Star Trek Lower Decks arrives on Paramount Plus this fall. Il y a 5 minutes.
On s'en doutait fortement, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu mal quand même que ce soit officiel.
Merci pour la mauvaise nouvelle.
Et écoute, on tire pas sur le messager, ok?
Et toi, Mehdi, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce de film?
Non, moi, c'est la même réaction, c'est-à-dire que j'ai entendu tellement d'annonces de films qui étaient soi-disant officielles, qui ensuite ont disparu dans les limbes, que je m'attends plutôt à ce que celles-ci également disparaissent dans les limbes, quoi. Donc, Donc j'attends de voir, ou en l'occurrence de ne pas voir. Voilà.
Surtout, ouais. Et toi, Yasmine, pareil ?
Ouais, pareil, j'ai du mal à y croire. Après, ça m'emmerde qu'ils repartent dans le passé encore une fois, mais bon, pourquoi pas, si c'est bien fait. Mais avec Abrams, ça donne pas envie. Et puis, j'y croirais pas tant que j'ai pas vu, donc bon.
Et sinon, avant de parler de Discovery encore, j'ai une autre question à vous poser. Surtout à Yasmine et Mehdi, est-ce que vous avez vu toute la saison 2 de Star Trek Prodigy ?
Non.
Non, toi Mehdi, t'as pas regardé. T'as commencé ou pas du tout ?
J'ai commencé, mais j'ai pas regardé la saison 2, non.
J'en suis à l'épisode 9.
Ah, c'est vrai, bien. Et toi Yasmine ?
Oui, alors j'ai regardé, je l'ai bingé en deux jours, en deux fois 4 heures, je crois, c'était 8 heures en tout. Parce que j'avais tellement peur que ça disparaisse et tout. Et du coup, je l'ai un peu regardé dans la précipitation. J'arrive pas à me souvenir de tout pour en parler. De toute façon, il faut pas spoiler. Il y a quelques trucs qui m'ont relativement déplu dans les choix scénaristiques. Il y a plein de trucs qui m'ont beaucoup plu. Et on en parlera, j'espère, de manière plus ouverte quand vous déciderez d'en parler. Je sais pas si vous attendez la sortie... oui, vous allez attendre la sortie internationale.
On attend la sortie sur Netflix parce que figure-toi que dans l'équipe, il n'y a que moi et Romain Nigita qui avons vu les épisodes et tout le reste, ils veulent attendre la version originale sur Netflix, donc on va...
Ah oui, ça c'était bizarre. Hein. C'était un peu bizarre parce que j'ai découvert les VF, je ne connaissais pas. Je regardais tout en VO sous-titré et c'était très drôle de découvrir les voix. Il y a beaucoup de voix qui sont tout à fait crédibles en fait, qui étaient naturelles quand j'entendais en français. Certaines étaient un tout petit peu limites, mais j'ai été agréablement surprise par les voix quoi. La VF elle est cool et je trouve ça dommage qu'ils essaient pas la VF, hein, nos amis qui préfèrent la voir en VO, parce que c'est pas mal quand même.
Honnêtement, c'est vachement intéressant de voir la VF, ouais. Et surtout les traductions, il y a des fois je suis là, de quoi? Ça me prend une seconde de me dire le trou de verre, c'est quoi le hall, oh, the wormhole, ok.
Ah ouais, mais ça, tu sais, c'est une traduction de SF classique, ça, hein, mais ouais.
Ouais, c'est clair, c'est du bon classique. En plus, ouais, cette version française, elle était aussi présente sur le même casting, sur le jeu vidéo qui a été sur Nintendo Switch. Donc ouais, c'était... le casting est assez attaché, en fait, à la série, donc ça fait vraiment plaisir, quoi. Et bien donc, on va enfin parler de Star Trek Discovery, saison 5. Je vois que vous piaffez tous d'impatience pour qu'on arrive à ce point-là du podcast. Donc, je vais vous demander un premier tour de table sans spoiler. Qu'est-ce que vous avez pensé des deux premiers épisodes qui ont été diffusés la semaine dernière? Et aussi, sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de celui de cette semaine? Et on va commencer par toi, Mehdi.
Eh bien, moi, je pensais pas adorer autant ces premiers épisodes parce que vraiment, le concept derrière cette saison, je trouve génial. Star Trek d'un côté qui rencontre Fort Boyard de l'autre, je trouve que c'est vraiment une super idée. Je trouve que Indiana Jones / Fort Boyard. J'adore quand ils sont là en train d'essayer de résoudre l'énigme. Ils ont 2 minutes parce que sinon ça va être trop tard. Ils vont se faire tuer par les robots. Et donc ils sont là en train de réfléchir. Moi je m'effondre sous la pression.
On a dit pas de spoiler, Mehdi.
Oui, mais ça c'est l'épisode 2, je crois. Ils sont en train de... Moi je m'effondre sous la pression. Perso, j'ai zéro réponse. Tu vois, je me réduis en fœtus, quoi. Tu vois, j'attends que ça passe. Mais eux, ils sont à fond. Ils trouvent la réponse. Et il se barre avant les 2 minutes, quoi. C'était vraiment impeccable. Donc ouais, c'est super. Indiana Jones, Fort Boyard, avec Star Trek, en fait, ça passe super bien. C'est les énigmes, un indice à chaque fois. Tu vois, ils en ont 2, je crois, voire 3. Et il y en a encore plein à trouver. Il y aura encore plein de planètes, plein d'énigmes, plein de mystères. C'est super. J'adore. J'espère qu'il y aura quand même d'autres personnages, genre le Perforas qui va apparaître sur une planète. Tu vois, ce serait sympa. Un Trill, peut-être, tu vois, en Perforas. Mais bon, ça a peut-être déjà été fait dans l'épisode 3, justement.
Le gars est le sans spoiler, c'est difficile, hein.
Ah, ça va encore. Je tease, c'est du teaser plutôt que du spoiler. Voilà ce que je pense en gros.
On se demandait tout à l'heure si ça allait être le Dark Mehdi ou le Mehdi pas Dark. Et en fait, c'est le Dark Mehdi, sache-le Mehdi.
Ok, si tu le dis.
Discovery, alors Discovery, la saison 5 de Discovery.
C'est pas facile, hein.
C'est une série qui est censée être faite pour moi, tu vois. Normalement, je suis censée adorer cette série. À chaque fois que je vois ce qu'ils en font, je rentre dans des contradictions dans ma tête, dans une espèce de paradoxe de dissonance qui me font beaucoup de... les deux premiers épisodes, c'était très chiant. J'ai trouvé ça très chiant. C'était, alors, il faut bien me comprendre, c'était moins pire que la saison 4 de Discovery, mais c'était quand même, je trouve, plus pire que les deux premières saisons de Discovery. Donc en fait, c'est un peu mieux que le pire que nous a offert Discovery, mais c'est quand même pas quelque chose que je regarderais si c'était pas Star Trek, en fait. Les décisions de faire un plot sur une saison d'un épisode de spoiler, ça m'emmerde. Que ça soit cet épisode-là particulièrement, c'est un épisode que je trouve extrêmement chiant. Et du coup, faire ça sur une saison entière, c'est décevant. pareil, les dialogues sont plats, sont artificiels. En fait, je crois pas en les dialogues, comment tu dis one on one quoi. En fait, les espèces de duo, de dialogues en duo, c'est j'y crois pas. Les effets spéciaux, ok, mais c'est pas pour ça que je regarde en fait Star Trek, et ça m'a jamais botté, les piou-piou et tout, ça m'intéresse pas spécialement, donc c'était probablement très joli, mais ça m'a rien fait. Tout le côté Star Warsien aussi, ça m'a pas particulièrement touché, j'ai trouvé que c'était à la limite de la... Enfin, je sais pas, je vais m'arrêter là, parce que sans spoiler, je vais pas pouvoir dire plus, mais si seulement c'était comme Fort Boyard en fait, mais bon...
Et toi, Giraffe, t'avais l'air d'être la plus enthousiaste de nous tous.
Ouais, le truc avec Discovery, c'est qu'ils sont passés à travers combien de showrunners ? 3, 4, je sais plus à combien
on en
est.
3, ouais.
C'est une série qui a toujours eu du mal à trouver son identité télévisuelle, on va dire. Et vraiment là où ils allaient et ce qu'ils faisaient. J'ai eu la chance de voir ces épisodes sur grand écran. Et honnêtement, ça change la donne. Parce que ce sont des épisodes qui sont très cinématiques dans comment ils sont filmés. Et personnellement, quand j'ai vu sur mon petit ordinateur, puis après sur ma télé, les épisodes, et comparé à quand je les ai vus sur un écran immense dans une salle pleine de personnes, ça donnait quand même quelque chose de très différent. Je trouve que c'est une série qui a toujours été très belle, particulièrement les costumes, les décors avec ces utilisations des murs, je sais pas comment on appelle ça en français, tu sais, les murs avec les... Ils ont des immenses LED. Murs en cercle, là, en demi-cercle, qui créent des paysages. J'ai toujours trouvé ça magnifique, le travail de Garcia Phillips aussi sur les costumes, m'a jamais déçu sur Discovery. Le truc, c'est que il faut bien comprendre que quand ils ont tourné cette saison, ils ne savaient pas que ça allait être la dernière saison. On est aussi combien d'années après la... Ça fait 2 ans que la 4 est sortie ?
Ouais, on a eu 2 ans d'écart là.
C'est une série Discovery qui a eu une saison 4 qui a été coupée en 2. C'est la 3 ou la 4 ? La 4 qui a été coupée en 2, n'est-ce pas ? Qui a la 4 et la 5 qui sont déconnectées de plus d'un an. On a une série qui a été quand même assez maltraitée, à mon avis, par Paramount, qui l'a pas donné aux fans de manière très constante. Moi, personnellement, ces deux épisodes, l'idée de départ me fait chier parce que je n'aime pas les références qu'ils utilisent, et aussi je suis extrêmement stressée par où est-ce qu'ils vont amener cette série pour la fin de la saison 5. Donc ça, on en parlera parce que là il y a vraiment des spoilers, mais ça, la grande image en fait, la grande histoire de Discovery, comment ça va se terminer, m'angoisse beaucoup plus que, on va dire, la minutie de chacun des épisodes. Les deux épisodes, bon, personnellement, moi, j'étais archéologue, donc ça me fait toujours chier quand c'est des histoires d'Indiana Jones. Mais bon, après, j'aime bien aussi Indiana Jones parce que c'est marrant, tu vois. J'aime bien suspendre un peu ma critique et me dire, allez, c'est marrant, on va aller chercher des objets cachés et puis on va trouver des indices. Et voilà, ça me fait marrer, j'aime bien. Je suis là pour le fun aussi, hein, c'est de la télé. Ça m'amuse. C'est plus que où ces trois épisodes font des choix qui sont vachement osés, et des fois tu te dis, je sais pas si c'est ridicule, génial, hein, si ça me fait marrer, si ça m'impressionne, si c'est fou furieux. Et ensuite ils font des choix ultra ennuyants, quoi. Ou si tu veux, ils auraient pu, genre en faisant une petite différence de planète ou des choses comme ça, vraiment porter l'histoire dans des endroits un peu plus intéressants. Donc voilà. Après, à ce que Michel Paradise a dit quand j'étais au panel là pour Discovery, ils ont eu le droit de tourner quelques scènes une fois qu'ils ont appris que c'était la dernière saison de Discovery, pour pouvoir finir certaines lignes de narration en fait. Et ouais, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va. Mais en attendant, ça m'inquiète. Voilà. Mais sinon, je me marre bien, tu vois. Ça me fait marrer, quoi. Je m'amuse bien.
Oui, mais je comprends. Tu sais, moi, par exemple, je suis pas spécialement mécontent. Et je sais pas si c'est parce que je sais pas si je suis plus cool parce que je sais que c'est la dernière saison et que je sais que ça va se finir. Ou si parce que les intrigues, elles ont un rythme un peu plus lent, dans le sens où il y a moins de rebondissements, un peu... où ça va dans tous les sens, tu vois, des twists pour des twists pour des twists. Et qui fait que, bah, finalement, ça mène jamais nulle part et que c'est fatigant. Là, par exemple, l'épisode d'aujourd'hui... je le trouve plutôt, entre guillemets, calme, même s'il y a, bien sûr, il y a de l'action, des rebondissements, des trucs comme ça, mais ça reste quand même assez posé, et en plus de ça, on voit un truc qu'on a toujours réclamé depuis le début de la série, en tout cas nous, c'est des scènes de quotidien. Alors effectivement, toutes ne sont pas bien écrites, mais au moins, voilà, ils essayent, quoi. Bah rien que ça, bah... Je me suis tellement énervé, par exemple, dans la saison 4 de Discovery, ou même dans d'autres épisodes précédemment, que là, finalement, bah, je me laisse plutôt porter, quoi.
La résignation.
Je tiens à préciser que la semaine dernière, la série était quatrième dans le top 10 de Paramount Plus sur l'application en France, et maintenant, elle est top 2.
Voilà.
Sais pas, qu'est-ce qu'on pouvait faire de cette affirmation.
Je suis impressionnée par la pub que Paramount fait pour cette dernière saison. Par rapport à toutes les autres saisons qu'on a eues, toutes les autres Star Trek, ils ont mis le paquet sur Discovery ici. Hein.
Attends, tu parles des États-Unis. Parce qu'en France, je vais te dire, c'est quoi la publicité de Paramount Plus France sur Star Trek Discovery? C'est une capture d'écran de Michael Burnham pour dire... Voilà Michael Burnham dans la saison 5. Voilà, c'est un post Twitter qui a été fait genre la semaine dernière et c'est à peu près tout ce qu'il y a en fait. Donc c'est nous, la pub chez nous c'est rien du tout.
Alors qu'ils ont fait des previews des deux épisodes à South by Southwest à Austin, ils en ont fait à WonderCon à Anaheim. Là, il y avait encore à San Diego, au San Diego Comic Con Museum. Ils ont passé encore les deux épisodes sur grand écran. Ils ont fait une première à New York. Il y a tout un tas d'interviews. C'est beaucoup plus gros que ce qu'ils ont fait pour Stranger Worlds.
Nous, en France, t'as l'impression que Paramount Plus, ils ont oublié qu'ils ont Star Trek dans leur catalogue. Hein, pour te dire à quel point ils en font pas la promo. Hein.
Mais ils ont autre chose dans leur catalogue, Paramount Plus ?
Bah, là, ils mettent surtout le paquet sur Walking Dead et sur Halo, tu vois.
Ah oui, ils ont Halo, ok. Ouais, bah c'est peut-être... ouais, mais en fait, en même temps, Halo, je suis pas sûre que ça ait beaucoup de succès en France non plus, en fait. Hein, si, vous pensez que si ?
Ouais, t'inquiète, aux États-Unis non plus. Hein.
Ils font plus de promos sur ces séries-là que sur Star Trek, par exemple. Si, il y a une série que j'aime bien pour laquelle ils font vraiment la promo, c'est Evil. Et ça me va bien. Donc,
dernière saison qui arrive quoi en mai,
ouais,
ça
elle arrive bientôt, ouais.
Ouais.
Elle arrive dans quelques semaines, à la fin du mois.
Mais aussi, il y a Yellowstone qui est une de leurs grosses
grosses... Oui, voilà, Yellowstone, oui. Ouais. Ça marche bien, ça, ouais.
Parce que j'allais dire, il y a peut-être juste les Trekkies qui en Paramount Plus en France. Et du coup, c'est normal que Disco soit juste en position 2. Et même pas en 1, tu vois.
Bah, si c'était le cas, ils en feraient en tout cas plus la promo, parce qu'ils se diraient, c'est ça qui porte le... Tu vois, qui porte le truc, quoi. Tu vois, par exemple, comme France Télévisions, quand ils se sont rendus compte... des mails d'Américains qu'ils ont reçus et qu'ils ont dû voir les stats de leur plateforme OCO sur Star Trek Prodigy saison 2, bah, c'est après qu'ils ont commencé à faire un peu de promo avec de la sponsorisation de posts sur Internet, quoi. Alors qu'avant, c'était pareil, c'était juste un post laconique sur Facebook qu'on n'avait pas vu. Je veux dire, il y avait eu un post... On aurait vu ce post sur Facebook au moment où il est sorti, l'histoire aurait été différente. On n'aurait jamais dit ça a leaké, je sais pas quoi. On aurait dit oui, ça a été OK, c'est officiel. Mais ce post-là, on ne l'a pas vu. Quand il était posté sur Facebook, moi je l'ai vu juste après, il y a eu genre 2 likes et 1 commentaire, quoi. Donc c'est pour te dire. En tout cas, sur ces bonnes paroles, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert.
Lieutenant Christopher demandait la permission de nous téléporter sur Trill.
Je suis navré, capitaine. Il ne vous autorise pas à vous téléporter.
Pour quelle raison ?
Il n'en donne pas. Le gardien Xi demande à vous parler.
Visualisation.
À vos ordres.
Gardien Xi, il y a un problème ?
En effet. Les informations que vous recherchez sont protégées depuis des siècles. Avant que je puisse vous aider, vous devez répondre à ma question.
Je ne crois pas que vous mesuriez les...
Vous n'avez pas le choix, capitaine. Votre réponse à cette question est obligatoire.
Alors posez-la, gardien.
Vers où le quatrième pointe-t-il ?
Qu'est-ce que c'est que cette question saugrenue ?
Je ne peux rien dire de plus. Vers où le quatrième pointe-t-il ?
Une énigme. C'est une référence au poème trouvé sur l'Irek. Le cinquième vers caché nous a conduit ici, mais le quatrième semblait nous guider vers Beta Z. La réponse est Beta Z.
C'est la bonne réponse. Je peux d'ores et déjà vous dire que le symbiote que vous recherchez est toujours en vie. Son hôte actuel, Kalzara Bix, refusait de parler à des étrangers, à moins qu'ils aient la réponse à cette énigme.
D'autres l'ont demandé ?
Non, vous êtes la première. Votre équipe peut se téléporter dans les grottes de Makala.
Warning.
Donc cet épisode 3 de la saison 5 qui s'appelle Jinal a été écrit par Kyle Jarreau et Lauren Wilkinson et réalisé par Andy Armaganian. Et donc on a un pré-générique. Comme je disais, on voit beaucoup des scènes un peu de quotidien dans cet épisode et ça commence un peu là-dessus, même si ça parle un peu de boulot, hein, parce que c'est une réunion à propos de Moll et Lac, les fameux bandits qui sont recherchés dans les deux premiers épisodes. Donc cette petite réunion se fait dans un couloir entre Michael Book et Culbert. Et y a Book qui veut absolument accompagner tout le monde sur Trill. Hein. Et donc on a, je trouve aussi après, un bel échange entre le docteur et la capitaine. Voilà, en fait c'est juste Wilson Cruz, il est dans une scène, on adore la scène, c'est tout, peu importe ce qu'il dit, peu importe avec qui il est juste fantastique. Et pendant ce temps-là, on a Tilly et Adira qui ont découvert que le premier indice indique un Trill en particulier qui a vécu justement il y a 800 ans et dont le symbiote est toujours vivant et qui est du nom de Jinal, si je ne me trompe pas. Donc le premier hôte de ce symbiote s'appelait Jinal, donc le titre de l'épisode, et Michael Book et Culbert donc, vont aller enquêter sur place. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début? Est-ce que c'est un peu quand même une machine à exposition, mais...
Moi, j'aime bien quand il y a des scènes de quotidien sur le vaisseau parce que je trouve que c'est toujours intéressant de connaître plus les personnages. Le truc avec cet épisode 3, c'est qu'après deux épisodes où littéralement on a planté des vaisseaux dans le sol d'une planète, on se calme une minute, on respire, on discute. Pour moi, la grosse déception... Trill encore, quoi, ça me fait chier, tu vois ce que je veux dire? Ça fait combien de fois qu'on va sur putain de... Pardon, je sais plus si on a le droit de faire des gros mots dans ce podcast.
Si, on a le droit chez nous.
On est entre nous, c'est bon, personne n'écoute, t'inquiète pas.
Ah, on est entre nous.
Attends, parce que maintenant, on a les podcasts, ils sont aussi sur YouTube et je sais pas si on a le droit de dire des gros mots. Je sais.
Ah bah écoute, on est sur YouTube et on dit des gros mots tout le temps, donc voilà.
Ah bon, ça va alors.
Donc, putain de Trill, j'en
putain
ai marre
de
Trill, quoi. Sérieusement, quoi. Et avec le truc de « Oh, c'est une très grosse planète !» Je m'en fous. Alors, je me dis, c'est bien, ils nous disent que c'est une planète immense. Du coup, on va aller quelque part d'autre, on va voir quelque chose d'autre de Trill qu'on n'a pas vu. Non, on voit encore la putain de même endroit, là, avec leur lac et la même... la même tradition, là, de le Jintara. Qu'on a vu dans DS9, qu'on a vu dans Discovery, la saison 4, 3, je ne sais plus. J'ai l'impression que chaque fois qu'on voit les Trill, on fait exactement la même chose, on va exactement au même endroit, on voit les mêmes gars avec les mêmes robes, on voit les mêmes likes, on voit les mêmes trucs. Et je suis là, sérieusement, j'en ai marre, quoi. Montrez-moi autre chose. Voilà. Mais bon, après, j'étais pas... tu vois, c'est juste que c'est chiant, quoi. Voilà.
Bah, il faut quand même dire que sur la planète, après, ils vont dans une carrière, quoi. Une grosse partie de l'épisode se passe dans une carrière. Donc, il y a des vagues rochers, des vagues cailloux tout autour. Et moi, c'est vrai que le premier épisode, je crois, c'était un désert incroyable avec une course-poursuite à la Star Wars. Le deuxième épisode, c'est une jungle magnifique avec des drones qui cherchent à les tuer, des statues millénaires, etc., qui sont effondrées. Et là, on a une pauvre carrière avec des cailloux, quoi.
Et c'est tout le temps la même carrière. Elle est vers Toronto et c'est tout le temps la même où ils ont fait. je crois que Talos Force était là-bas aussi. si tu regardes, il y a des épisodes, c'est les mêmes.
Ils ont fait tous les Bioman et les Power Rangers dans cette carrière. Tu sais, dès qu'il y a un combat entre les robots géants, c'est dans une carrière. Je suis sûr que c'est la même. C'est exactement la même.
C'est les nouvelles Vasquez Rocks.
Voilà, ouais, exactement. Donc ouais, la carrière, moi ça m'a déçu, quoi. Où sont les décors magnifiques des deux premiers épisodes? Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était absolument vrai. Il y a des bons effets spéciaux, il y a un bon budget. Visuellement, ça tape l'œil, quoi. Visuellement, c'est beau, c'est vraiment sympa. Sur grand écran, je veux bien croire que ça en jetait. Mais là, c'est vrai que du coup, ça retombe, quoi. Le soufflet retombe et visuellement, il n'y a pas grand chose à retenir de l'épisode. Donc, c'est dommage. Pour moi, les scènes de quotidien, c'est quand ils sont dans le bar. Donc, c'est plutôt vers la fin. Ça, c'est...
C'est pas que ça. C'est vraiment des scènes de quotidien où, par exemple, ça échange au détour même du boulot. Par exemple, au tout début, on a un échange entre Renaud et Stamets qui sert pour faire de l'exposition sur le couple d'Adira et Grey, d'accord. Mais c'est sympa parce qu'il y a l'actrice qu'on aime bien. Et puis ça parle d'autre chose, quoi, que de boulot. Et c'est comme ça donne un peu de corps un peu au personnage. Et c'est un truc qui manquait depuis le début de la série et qui arrive un peu tardivement et que je trouve qui est... Alors, je sais plus qui disait tout à l'heure, ouais, les dialogues 1-1, ça fonctionnait pas. Oui, des fois, il y en a, tu te dis, c'est un peu chiant. On dirait que c'est un peu une écriture automatique. Ils disent un peu des banalités. Il n'y a pas vraiment de surprise. Les acteurs, ils n'ont pas assez à manger pour pouvoir briller correctement. Mais voilà, il y a quand même des petits moments comme ça qui, je trouve, fonctionnent bien, quoi. Alors, il y a ça, et surtout, dans un des plots de... Parce qu'il y a au moins 4 plots hein, dans cet épisode. Le plot A, bon, c'est le truc principal, c'est la recherche façon Indiana Jones avec Burn Farnham, le docteur, et Book sur Thrill. Le plot B, c'est le commandeur Rainer qui doit apprendre à faire connaissance avec tout l'équipage du Discovery à base de un échange avec seulement 20 mots devant les yeux médusés de Tilly. Ensuite, on a comme troisième plot Saru, qui a des problèmes avec son futur mariage, elle a des problèmes politiques avec des Vulcains. Et le quatrième plot, c'est la relation entre Adira et Grey. Voilà, donc ça nous donne quand même, ça fait quand même beaucoup de choses. Et même si effectivement je trouve qu'il y a des dialogues qui, comme encore une fois, qui sont pas brillants, je trouvais qu'il y avait du liant dans cet épisode-là, qu'il y avait pas de, de morceaux qui dépassaient. Les intrigues en elles-mêmes, des fois, sont chiantes. Hein. L'histoire avec Saru, par exemple, je trouve que c'est n'importe quoi.
Ah, oh, je suis pas d'accord.
Mais je trouve quand même que malgré tout, même si j'ai pas aimé l'histoire avec Saru, je trouve que les quatre histoires, les unes avec les autres, forment bien un tout dans l'épisode. Et ça, c'est pas si souvent que Discovery a réussi à avoir un truc aussi harmonieux.
Ouais, mais il y a un problème dans comment ils le font. Le problème, c'est que c'est de la télé. Donc, normalement, la règle, c'est show, don't tell. Right? Tu dis, tu montres, mais tu dis pas. Et là, par exemple, Adira et Grey...
Dans Star Trek, cette règle-là n'existe pas, parce qu'il y a tellement de choses qu'ils ne pouvaient pas montrer, faute de moyens, faute de plein de trucs. Il y a plein de choses qu'ils expliquaient, tu vois.
Non, les relations entre les gens, par exemple, de voir Adira et Grey en train de discuter, par exemple, sur... tu sais, ils parlent qu'ils se voient que par holo depuis 6 mois. Montre ça, plutôt que d'avoir Jet Reno qui nous explique ça à Stamets, qui ne sait pas du tout de quoi elle parle. Il y a beaucoup de blabla, alors qu'ils auraient pu faire une scène et le montrer, et ça aurait été plus fort de voir le désespoir d'Adira, par exemple, ou l'angoisse d'Adira après la conversation avec Grey, plutôt que d'avoir Jet Reno qui explique ça à Stamets.
Je suis tout à fait d'accord.
Pareil pour Saru et Tarina, par exemple. Led, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le gars là, qui vient créer des problèmes. De nous montrer les puristes vulcains et de nous mettre un petit peu dans les machinations politiques qui sont en train de se passer à Nivar, du problème racial qu'il y a à Nivar, etc., entre les Romulins et les Vulcains, et qu'évidemment, il y a encore du racisme et ça pèse dans la politique de la planète. De nous montrer aurait été vachement plus intéressant que d'avoir ce gars qui nous raconte ça avec des analogies, là, des métaphores de baril de poudre, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a beaucoup de blabla dans cet épisode qui aurait pu être résolu par une ou deux scènes d'interaction autres, en fait.
C'est notamment aussi pour ça que tu vois que j'ai pas aimé la partie sur Saru, parce que je trouvais que ça marchait pas, pour les raisons que tu viens d'évoquer d'ailleurs. Et c'était vraiment dommage, quoi, parce que il y avait, comme je disais, l'architecture de l'épisode fonctionne, c'est juste que dedans, il y a des manques, quoi. Il y a des vrais manques.
Ah, vous allez dans tous les sens, là, parce que normalement, on était sur Trill, hein. Ou sinon, c'est...
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Écoute,
c'est
freestyle. Slash, écoute ton cœur.
Je croyais qu'on était là pour discuter, quoi.
Freestyle.
On est en roue libre.
Roue libre.
Mais oui. De toute façon, en plus, dans l'épisode, il n'y a pas grand-chose à retenir, hein. C'est finalement Saru, il doit se marier, et puis finalement, sinon il se marie. Enfin, tu vois, il y a des problèmes politiques, ça lui fait la pression. Ah, oh, finalement, je me marie pas, puis finalement, oui. Adira Y, qui finalement, avec
ça a changé,
ça
du coup.
Pas. Burnham, elle trouve un nouvel indice, et puis le commandeur Reynard, on lui dit, finalement, t'es pas sympa, et puis peut-être qu'il va le devenir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir de l'épisode, donc du coup, oui, on peut valdinguer un peu.
Attends, moi j'ai envie de parler de Thrill, parce que moi, j'ai adoré, non, je déconne, j'ai pas adoré Thrill.
Vas-y, parle de Thrill.
Alors, il y a un truc que j'ai aimé dans l'idée d'un Thrill, qui serait toujours vivant après des centaines d'années et qui reconnecterait, tu sais, à une époque plus ancienne, plus proche de la période de laquelle viennent nos comparses de Discovery. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est une idée tout à fait intéressante. Pourquoi ils l'ont pas utilisé plus tôt, en fait? Pourquoi ils nous ont pas mis un Thrill déjà avant qui pourrait les connecter? Parce que sinon, 900 ans, tu sais, le bon d'antan, c'est vraiment très... 900 ans, c'est beaucoup, en fait. Et du coup, normalement, ils devraient être complètement perdus pendant des saisons, tu sais, à pas comprendre comment fonctionnent les choses, même les plus basiques,
mais
à avoir un shift mais extrême et tout. Et le Thrill, qui a plusieurs centaines d'années, qui sait de quoi il parle, tu vois, il aurait pu... après, j'étais là, lol. Attends, non, on est dans Discovery. Le Thrill, ça va être juste un espèce de remake à la... De l'épisode de Deep Space Nine, et apparemment aussi d'un épisode de Disco, mais dont je me souviens absolument pas. Et en fait, déjà, dans l'épisode de Deep Space Nine, que je trouve pas le plus génial, hein, même si, à ta part, j'aime beaucoup Deep Space Nine, mais, t'as Dax, et on a quelque chose à faire de Dax, un tout petit peu, tu vois, en fait, on est intéressé par Dax, on a mis un peu de temps à la développer et tout, mais, et en fait, là, on nous ramène un Thrill qu'on connaît pas, Et en plus, ils font un choix de mettre la trille là, de faire un corps vieux pour un symbiote qui est aussi vieux, tu vois. Enfin, le double truc qui sert à rien. Genre, ça aurait pu être une jeune personne avec un symbiote vieux, non, en fait. C'est une personne vieille qui est là en train de dire « Oh, je t'attendais et tout. » Genre, ça fait quoi? C'est...
C'est vraiment moins une, quoi. Il était temps qu'ils arrivent.
Et le symbiote aussi, attention, est vieux, parce que le symbiote, s'il a une espérance de vie, on arrive à la fin de l'espérance de vie. Et Fort Boyard, c'est trop Fort Boyard, en fait, finalement. Là, je suis en train de reconnecter les trucs, et c'est vraiment Fort Boyard. Tout ça pour dire que le plot, pour moi, il est merdique, mais, bien sûr, il y a quand même un truc cool, c'est Wilson Cruz, et c'est bien de le voir prendre une voix grave. C'est bien de voir faire un peu une démarche virile et tout. Moi, j'ai souri pendant tout l'épisode. Je suis pas sûre que je l'ai pas vécu comme un truc à Emmy, tu vois, à Emmy Award, mais je me suis dit, c'est bien et tout, c'est bien ce qu'ils lui ont fait faire pour une fois. Parce que, en réalité, je suis désolée, mais je suis absolument d'accord avec ce que t'as dit, Giraffe. En fait, j'ai l'impression qu'ils leur ont dit, vous connaissez le concept de show don't tell dans l'acting? Vous connaissez? Alors, vous faites exactement le contraire, s'il vous plaît, en fait. Vous faites absolument pas ça. Surjouez tout. Faites des mimiques chelous, bougez la bouche dans tous les sens quand vous êtes content, montrez que vous êtes content avec tous les muscles de votre face, mais tous en même temps et tout. Et vous disiez ça dans le dernier podcast que parfois leur acting est encore moins subtil que Shatner. Et en fait, Shatner, il a un acting, bien sûr, horrible. Mais j'ai envie de dire, parfois, oui, en fait. Il y a des acteurs, mais je les ai déjà vus dans des trucs et ils jouaient beaucoup mieux. Notamment, Ian Alexander, en fait, dans The OA, il joue super bien. Il joue avec de la subtilité. Et tout dans des scènes très graves, tu vois, avec beaucoup d'émotions et tout, et tu vois dans ton visage qu'il joue bien, quoi. Et là, dans l'interaction qu'il avait avec Adira, j'avais l'impression de dire, mais arrête de faire des grimaces, là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais 50 000 grimaces? Et c'est ça qui, pour moi, aplatit aussi un peu les dialogues. Bah, y a ça, y a l'acting, et la mauvaise direction d'acteur, hein. C'est absolument pas les acteurs, je suis sûre que c'est pas les acteurs, les actrices. Et aussi, les dialogues, j'ai l'impression que c'est écrit par ChatGPT. Moi, je continue à dire que c'est écrit par ChatGPT. Et qu'en fait, il y a quelqu'un qui leur dit, alors, faites-moi une scène où il y a une rupture à cause de la longue distance. Tu sais, tu dis ça à ChatGPT. Deux personnages, personnage 1, personnage 2. Et en fait, ChatGPT, il te fait, leur interaction, là, leur échange, c'était plat, mais d'un plat. Est-ce que je suis en train de sauter? Je crois que c'est en train de sauter, je fais comme vous. Même.
Non, t'inquiète.
Mais il y en a une liste, on a des points, là. Qu'est-ce que tu suis? Tu suis quoi? Que moi, je sais pas qu'on suit quelque chose.
On est entre nous, vas-y, écoute ton cœur.
Il y a un script.
Connection.
Il n'y a pas de conducteur, on y va.
Il faut que tu te connectes avec ton propre, ton fort intérieur, tu vois, c'est ça la morale.
Mon fort intérieur. I am connected, I feel connected. Merci.
Non mais sans blague, l'histoire du trill, c'est quand même fou furieux que les gars, ils mettent un indice dans quelqu'un qui risque de mourir. Parce que le symbiote, ouais, il aurait pu mourir quand même.
Et après quoi?
Il faut qu'on en parle de ça quand même, parce que on se demandait justement la semaine dernière, dans l'épisode de la nouvelle génération, on comprenait pourquoi il y avait des indices qui avaient été mis grosso modo à droite à gauche, voilà, pour que les différentes espèces, elles travaillent ensemble, et voilà, si jamais elles arrivaient à travailler ensemble, elles pourraient découvrir le message. Visiblement, donc c'est des scientifiques donc de l'époque de la nouvelle génération. Qui sont dit, parce que c'était la guerre contre le Dominion, etc., c'est la merde, ce qu'on a découvert, c'est trop important, trop précieux, il faut le cacher. On va le cacher, et puis on va faire des épreuves un peu comme dans Indiana Jones et la dernière croisade, comme ça, celui qui sera méritant, il aura le droit d'avoir le truc. Mais quand il pose la question, est-ce que, en 3100, je sais plus combien, est-ce que finalement ça va? J'ai envie de dire, c'est pas forcément mieux qu'au moment où vous avez décidé de cacher le truc. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ce jeu de piste pour le révéler à des gens qui, finalement, ne sont pas forcément méritants et, en plus, représentatifs de la population de la galaxie? Donc, en fait, la raison pour laquelle ça a été caché à l'époque de la nouvelle génération, je peux le comprendre. Mais par contre, j'ai peut-être du mal à accepter le jeu de piste qui est l'objet du jeu de piste de maintenant, en fait.
Ah non, mais c'est clair. Le choix de ce plot, déjà, à la base, elle est claquée au sol, hein, comme on dit. Ça se justifie pas, et on n'arrive pas encore à trouver une justification, à moins qu'il nous explose notre tête à la fin de la série. J'ai peur qu'il nous le fasse, mais de manière négative. Avant de passer sur le overarching plot, genre l'histoire globale de la saison, pour moi, ce qui est bien dans Star Trek, c'est que ça pose aussi des questionnements et tout, philosophiques et tout. Et moi, je comprends pas pourquoi Grey, Adira, rampe, alors que les holocalls, là, les trucs holographiques, mais vous me direz, hein, peut-être que je comprends pas, mais on est dans un futur tellement lointain que non seulement la technologie holographique, elle a été développée, elle a été perfectionnée, c'est plus du tout la même chose que... Déjà, à l'époque de Voyageurs, c'était quand même pas mal.
Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même des glitches toutes les deux secondes. C'est quand même embêtant. Tu vois, par exemple, quand t'as le gardien de trip qui est sur le passage du Discovery.
Ouais, mais en fait, du coup, il y a
eu un retour
en arrière.
À chaque fois, il y a des glitches, et en plus de ça, ça fait du bruit, c'est un petit bruit de friture. C'est super énervant. Je me dis, c'est comme nous, quand on a nos conversations et tout, ça peut arriver avec Mehdi, on fait un podcast, ouais, son micro il marche pas, ça déconne et tout. Mais c'est pas genre, à chaque fois qu'il y a un appel,
tout de suite, c'est moi.
Les 2-3 secondes,
c'est un exemple.
Mehdi, ça tombe sur toi,
c'est un exemple.
C'est un exemple. Ouais. Ok, ouais.
Ça aurait été Marina, ça serait tombé sur Marina, mais là c'est toi. Et donc voilà. Et ça, en fait, dans Discovery, en fait, c'est pas que dans Star Trek, hein, c'est dans tout, hein, dans Star Wars, à chaque fois qu'il y a un truc d'hologramme, de machin, de communication comme ça, pour faire un peu futuriste, pour bien nous montrer que c'est un truc qui est pas réel, et à chaque fois il y a un petit glitch toutes les 3 secondes pour bien te faire revenir ça en mémoire. Bon, c'est super énervant, mais bon, bref. Et pour revenir sur Grey et Adira, moi j'ai envie de dire un truc qui m'énerve encore plus, c'est que effectivement la justification de leur séparation, parce que c'est un truc à distance, moi je trouve qu'avec la technologie, les holos, même si ça glitch, c'est quand même moins embêtant qu'à notre époque, on va dire. Et surtout, ils ont raté encore une fois une occasion. J'en avais déjà parlé à l'époque de la saison 3 ou 4, je ne me souviens plus, je crois que c'est la saison 3, quand Grey a son nouveau corps, le golem, quoi, un peu comme a eu Picard. Et en fait, j'avais posé une question, c'est qu'il y a un truc que je ne comprenais pas.
On ne parle pas du golem.
Ouais, non, enfin, le corps synthétique, parce que là, Grey, donc, il a un corps synthétique. Et à l'époque, Giraffe, peut-être tu vas pouvoir me répondre, parce que moi, je ne me souviens plus, ou en tout cas, je n'avais pas compris à l'époque. En fait, Adira, au début, a recueilli donc, le symbiote de Grey, qui était qui allait mourir, et du coup de ce fait les souvenirs qu'elle avait, souvenirs de Grey en Adira, quoi. Adira avait ses souvenirs, donc voilà, ça faisait une personne. Et finalement, après, Grey a été extirpé d'Adira pour être dans ce corps synthétique. Où est passé le symbiote?
Le symbiote est dans Grey.
Donc Adira, est-ce que Adira a gardé les souvenirs?
Non, parce que les souvenirs sont attachés au symbiote.
D'accord. Ça, tu vois, ça c'était pas clair du tout.
Mais parce que c'est comme ça qu'ils ont créé les trills, je veux dire, c'est un truc qui va, c'est comme si tu veux avec Ezri Dax, donc qui a les souvenirs si tu veux, mais parce qu'elle transporte le symbiote qui
bien
lui
sûr.
Transporte.
Mais du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, au moment où Grey a été extirpé et mis dans un corps synthétique, Adira avait encore le symbiote, ça veut dire
mais
que
le truc,
les deux personnes étaient les mêmes personnes.
Adira est pas trill.
Adira n'avait pas accès aux souvenirs, mais...
Voilà, donc elle avait... je sais pas comment on utilise les pronoms neutres en français, donc excusez-moi. Mais donc Adira n'a pas accès aux souvenirs, en fait. Mais...
Et elle n'avait pas accès aux souvenirs, mais accès à Grey qui venait lui parler dans sa tête, en fait.
Parce que Grey n'est pas un souvenir. Et c'est là le truc bizarre de ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont capables de extirper la conscience de Grey, un peu comme Spock dans À la recherche de Spock, quoi. Tu vois.
Ouais, je comprends. Ouais. Écoute, tu sais quoi, tu m'as mis ça à plat. Merci beaucoup parce que pour moi c'était pas clair. Et je trouve que ils ont manqué un truc. Ils auraient dû justement avoir une idée un petit peu, justement, on parlait de philosophie, de trucs de SF, etc., de trucs qui font réfléchir, qu'il y a un truc qui déconne et que finalement, tu vois, Adira ait accès aux souvenirs, etc., et que finalement, on se retrouve avec un peu, tu vois, comme le radeau de Thésée, quand tu changes une pièce à chaque fois, après, est-ce que c'est toujours le radeau de Thésée, puis tu récupères les anciennes pièces, en fais un deuxième, et du coup, lequel est le vrai? On aurait pu avoir un truc un peu de ce niveau-là. Et bref, si ça avait été exploré, ce truc-là, ils auraient très bien pu avoir que cette expérience aurait pu peser sur les deux personnages et aurait pu justifier justement une séparation, quoi.
Après, la séparation de Adira et Grey est super problématique dans comment Discovery est amenée, parce que ces deux personnages ont été ultra mis en avant pendant la saison 3 et 4 et ont été très importants pour pas mal de fans qui s'identifient à ces personnages. Et si tu veux, là, on réalise que, encore une fois, évidemment, c'était un peu du tokenisme, tu vois. C'est-à-dire que c'était pour être sûr que, regarde, on a un personnage transgenre, donc voilà. Mais on va rien en faire, ok. Grey est là juste pour exister. Et puis ensuite, on le met au placard. Et quand il revient, c'est pour le séparer d'Adira. Et dire bye bye et ça sert à rien par rapport au personnage. Adira et Grey, en soi, ils auraient pu rester ensemble, ça aurait rien changé à cet épisode, ça aurait rien changé à l'histoire. Ça aurait été important pour pas mal de fans quand même de garder ces personnages là heureux, parce que aussi apparemment on peut pas avoir de relations heureuses dans tout le monde a des problèmes sentimentaux apparemment.
Le bonheur n'intéresse personne, c'est bien connu.
Le truc c'est que ça, si tu veux, si entre Book et Burnham par exemple, le fait qu'il y ait cette discussion bon, qui était un peu tu vois, qu'ils aient des problèmes et qu'ils se séparent, ça va amener quelque chose à l'histoire. Je vois sur quoi ça pourrait, tu vois, apporter des difficultés, des retournements, des questionnements pour les personnages plus tard dans d'autres épisodes. Adira et Grey, ça sert à quoi ? Enfin, tu vois, c'est juste pour les séparer. Pour les séparer, c'est comme Raffi et Seven, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire, ah bah, elles sont plus ensemble. Okay,
c'est ça, mais parce que la relation à la base, elle n'était pas écrite pour servir à quoi que ce soit. En fait, ils ont été surpris par l'effet qu'ils ont eu probablement, et en fait, ils se sont dit ah, c'est une bonne occasion de pinkwasher tout ça. En fait, Star Trek, c'est pas très glorieux ce qu'ils ont fait aux personnages LGBT depuis l'histoire de Star Trek. Ils sont pas vraiment à l'avant-garde. Ben, ils l'étaient peut-être à une époque, mais ils ne l'ont plus, été pendant très très longtemps. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on fout des personnages, mais ils ont aucune profondeur, aucune interaction vraiment significative. Tue un parfois, on en ressuscite un, puis on le... Et pour moi, ce Discovery, c'est vraiment une PR stunt, un truc de relation publique, en fait, pour Star Trek, pour la franchise, pour dire, ah oui, nous sommes pro-LGBT, mais bon, pas trop non plus, hein, parce qu'il faut pas déconner. On est pro-LGBT parce qu'il y a des personnages, mais attention, ils ont aucune profondeur. Hein. Enfin, moi, cette série, elle me...
Et puis, ils ont pas le droit d'être heureux. Ils ont pas le droit d'être heureux, et ils ont pas le droit d'être en couple. Hein.
Et c'est que du pathos... Moi, ça m'emmerde. Hein. Moi, ça m'emmerde le côté pathos aussi. Hein. En fait, les vies des personnes les LGBT ont des vies profondes, hein, avec plusieurs choses qui les intéressent plus que juste relations ou quoi. En fait, il faut écrire des personnages profonds, pas me faire que du pathos et des pleurnicheries. Nous ne passons pas notre temps à pleurnicher, je vous assure. En fait,
mais là, il y avait même pas de pathos, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, la séparation, c'est quoi ? C'est une scène de 2 minutes où t'es là, ça sort un peu pas de nulle part, mais bon, un peu de nulle part, et t'es là, ok, et donc, et voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de...
ChatGPT, il n'est pas très fort. Hein.
Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ça que j'attendais, tu vois, justement, de ces deux personnages-là, parce que pour moi, je m'étais fait un film, quoi, tu vois, je m'étais imaginé un grand truc de SF sur les trills, et sur qui aurait pu être en plus une métaphore de plein de choses, qui aurait pu être un truc vraiment intéressant. Et finalement, ça a été, oui, comme tu dis, que de la surface, et c'est très décevant, quoi.
Mais c'est un peu le cas de toute la série, hein. Tout est en surface, en réalité, dans cette série. Tout est superficiel, depuis le début, parce qu'effectivement, comme on disait au début, c'est des showrunners différents qui succèdent, donc la série, elle a aucune vision à long terme, elle a aucune direction, elle part dans toutes les directions en même temps. Et tout, même les relations hétérosexuelles, même les personnages principaux, tout reste superficiel chez eux. Donc c'est encore pire pour les autres, effectivement. Mais je trouve que c'est à l'image de toute la série depuis le milieu de la saison 1, quoi. Ce que vous êtes en train de dire.
Je sais pas, je trouve que la relation entre Stamets et Culbert, par exemple, a été super intéressante. Je trouve que c'est deux personnages qui sont intéressants à voir ensemble à la télé. Et je trouve que la relation entre Burnham et Book aussi, moi, m'intéresse vachement.
Ah, moi, elle m'intéresse pas du tout.
C'est peut-être parce que t'es pas une femme noire, ouais. C'est pour ça, non ? Tu penses ?
C'est possible, c'est ouais. Possible. C'est... Moi, je trouve que le personnage de Book, il est pas hyper intéressant, il a pas beaucoup de relief, donc il m'attire pas plus que ça. Elle, Burnham, depuis le début, quand même.
Quand il enlève son t-shirt, moi, je trouve qu'il a beaucoup de relief, c'est ma femme qui m'a dit ça. Et elle est très déçue parce que depuis la saison 4, il n'enlève plus son t-shirt.
Bah, en tout cas, voilà, il est trop gentillé à mon goût. Moi, Michael, dès le début, c'était un personnage intéressant parce qu'elle était très douteuse, on va dire. Elle prenait des décisions quand même vraiment dangereuses et douteuses. Elle était dans le conflit,
et
etc. Donc, il y avait un côté rebelle et un côté difficile à son sujet qui m'intéressait. Lui, Book, pas du tout. Lui, il est gentil comme tout. Il est lisse comme tout, y compris physiquement, peut-être, je sais pas. Mais donc, il a...
Non, il est pas lisse physiquement.
Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche bien avec ces deux personnages-là, malgré tout, quoi.
Ils sont gentils, on dirait une relation d'adolescent, quoi. C'est une relation presque asexuelle, à la limite, où, tu vois, c'est la série à l'ancienne, quoi. On est ensemble, on l'est plus, on se tourne autour et tout. On dirait Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, quoi. C'est...
Moi, je trouve que dans cette saison 5, là, les 3 épisodes qu'on a eus là, je trouve que, tu vois, ils en font pas des caisses. Je trouve que, enfin, Il y a rien qui m'a gêné. Pour
ah ouais, bah si on va par là, oui, il y a rien de gênant, effectivement. Y a, c'est ça le critère.
Non, mais je veux dire, dans la saison 4, par contre, Book m'a beaucoup gêné, tu vois, pour plein de raisons différentes. Là, je trouve que effectivement, la direction qu'ils prennent me semble intéressante, sympathique.
Y compris quand ils se retrouvent, ils découvrent ça, si on peut dire maintenant, parce qu'on part dans tous les sens. Mais ça, je crois que c'était la fin de l'épisode précédent, non? Où c'est sa sœur, si j'ai
oui,
bien
oui,
compris.
Oui, c'était l'épisode 2, oui.
Ah ouais, c'est pas sa sœur. Enfin, le plus proche,
c'est la fille de
son mentor.
Fille de son mentor.
Et donc, c'est ce qui se rapproche le plus d'un membre de sa famille. C'est ça qu'il dit, non?
C'est ça, ouais.
Donc ça,
ouais,
pareil,
c'est un mec qui a perdu toute sa famille, qui a perdu sa planète, qui a plus personne. Et je pense qu'il est en train d'essayer de rattraper des gens à qui il pourrait s'identifier, quoi.
Il serait temps, effectivement, depuis que sa planète a été détruite, moi, je ne l'ai pas senti vraiment dans le PTSD, tu vois. Il est pas... Il est triste,
bah,
mais...
C'est la saison 4.
La saison 4, on l'a eu...
Mais c'est la saison 4.
Il est tristoune, quoi.
La saison 4, on l'a beaucoup traité, ça, Mehdi. C'est pour ça que maintenant, heureusement que ça part sur autre chose, parce que c'était un peu omniprésent, quoi.
Pour moi, ça n'a pas été bien traité parce que quand t'as. Moi, je suis. Alors, pareil, j'ai du mal à m'identifier à quelqu'un qui a perdu sa planète d'origine. Faut avouer, hein. Faut reconnaître, c'est pareil. c'est pas mon vécu personnel. Donc, c'est difficile de critiquer.
J'avoue.
Mais je me projette quand même. Tu vois, j'utilise mon imaginaire. J'essaie d'être dans l'empathie avec quelqu'un qui a perdu sa planète et sa civilisation. Et je me dis quand même.
Mon cœur.
Je risquerais de réagir de façon un peu plus brutale et dark, quoi, tu vois. Quand même.
Bah, il a essayé quand même de buter une planète entière aussi, enfin, quand même, quoi, dans la saison 4.
Une civilisation,
il fait des choix.
Ouais,
mais oui, revoit la saison 4, hein, Mehdi, je crois. Hein.
Ils font plein de choses, mais moi, je le ressens pas dans mes tripes, quoi, tu vois. Quand ces personnages font des choses ou essaient de faire des choses horribles, j'y crois pas plus que ça, quoi. C'est plus un twist scénaristique que vraiment un truc qui vient du personnage et auquel j'accroche.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Moi, je suis pas une femme noire hétérosexuelle, enfin, ou en tout cas, qui est intéressée par l'histoire hétérosexuelle. Du coup, en réalité, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait avec Burnham à Ebook, ça m'a emmerdé, ça m'a déçu, parce que moi, je projetais des choses sur Burnham, qui était du coup assez déçue par son histoire hétéro. Là, j'étais là, mais quoi? Mais quoi? Non! Et du coup, quand ils ont rompu en début de saison, je me suis dit, mais c'est bien, mais maintenant elle va peut-être, tu sais, enfin, elle va. En fait, ce qui m'emmerdait, c'est qu'ils fassent une histoire, un love interest au personnage principal féminin. Parce que je veux bien qu'elle ait plein d'histoires périphériques et tout, genre, comme faisait notre ami Jean-Luc Picard. Ou comment elle s'appelle, Janeway, elle avait des petits trucs, l'alien de la semaine et tout, mais qu'elle reste célibataire en fait, qu'elle existe pour elle-même et qu'elle soit pas dans une relation qui va l'absorber et tout. Donc moi, ça m'a emmerdé de voir Book arriver. Après, je l'aime bien en tant que personnage et du coup, je m'y suis fait. Du coup, à la relation, je me dis, allez, c'est pas grave, vas-y, une relation amoureuse. Et en fait... ce qu'il lui en fait en saison 4, ça m'a, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder la saison, d'un coup, enfin. Il lui en massacré sa planète. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi tu introduis un personnage et tout de suite après tu le détruis, en fait? Tu détruis tout ce qu'il pourrait être. Et tu le condamnes pendant une saison à, gérer le PTSD, à devenir, un méchant et, en fait, je voyais trop la saison 5 commencer avec Book en prison, tu vois. Et là, je vois, il n'est pas en prison, je me dis, ok, ça va.
Bah, il n'est pas en prison parce que je pense que... Il n'est pas en prison et parce qu'il est en... Je pense qu'ils ont un système de justice réparative, en fait.
Réhabilitation, ouais.
Et il explique ça au début de l'épisode... C'est quand est-ce qu'elle le fait revenir, épisode 1, ou premier épisode, où il explique qu'il est en fait condamné, avec des guillemets, à faire certains travaux d'intérêt généraux pour la Fédération, parce que je pense que c'est un système où en fait la Fédération n'a pas de prison. Si t'es pas et tu dois en fait réparer ce que t'as fait et il aide avec les réfugiés, etc.
Oui, du coup il est l'équivalent de la prison du système,
voilà,
judiciaire.
Donc
de
il
la
est l'équivalent de prison mais pas enfermé, quoi.
Mais excuse-moi, ils auraient très bien facilement pu le mettre en prison, hein. Moi je crois pas du tout en leur parce qu'ils pourraient juste dire, ah oui, mais vous savez, dans le 32e siècle c'est plus la même chose que la fédération de qu'on connaissait maintenant, avec le burn, on a dû faire des choses différentes. Et donc bon, enfin, je reviens, je fais un saut mais qui n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Moi j'ai beaucoup aimé le combat j'ai beaucoup aimé le combat dans la carrière, parce que ça m'a trop rappelé les combats dans les trucs avec des rochers en polyester de Star Trek de base. Mais et du coup, moi, franchement, les petits trucs là dans la carrière, ça m'a fait plus d'effets que les effets spéciaux des deux premiers épisodes. Je sais pas, je les regardais sur un ordi, mais...
Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'étais un peu triste quand Mehdi il disait un peu du mal sur cette carrière. Je la trouvais très bien, cette
mais
carrière.
Mais si vous aimez les carrières, libre à vous. Hein. Moi, je respecte tous les choix, tous les goûts. Moi, je trouve que la carrière, c'est un peu pauvre, personnellement, par rapport au... Comparativement au décor des premiers et deuxièmes épisodes, tu vois, le désert incroyable.
Oui, mais c'est Star Trek.
Je veux dire, c'est l'équivalent des parcs souterrains.
Mais c'est Star Trek, c'est pas Star Wars. On n'est pas dans Star Wars, là. Mais dis,
attends, t'as de la
là
chance, on n'était pas dans une caverne, au moins.
Je pense qu'ils ont passé tout le budget dans les deux premiers épisodes, hein, clairement. Donc là,
ah, c'est clair. Ah, c'est sûr.
Bah, excuse-moi, mais le premier épisode, je croyais que je regardais Star Wars. Hein, la course de pod dans le désert, c'était très Star Wars.
Oui, mais c'est pour ça que c'était pas bien.
Donc
quoi,
il
n'y
a plus de budget, donc maintenant, on va dans la carrière. Bah ouais, mais au moins, il y avait
un
joli décor, quoi, tu vois.
Je rêve. Attention, hein.
Non, pas du tout. Je sais pas. Honnêtement, comme des fois, je me fais un peu chier. Donc c'est comme pour le Tour de France. Je regarde les paysages, tu vois. Donc dans Star Trek, parfois, je regarde le paysage. Ils sont en train de parler. Moi, je regarde à travers le hublot qui est derrière. Tu vois, je regarde les étoiles. Je me dis waouh.
Moi, je regarde les costumes. Hein.
Ouais, les costumes aussi sont pas mal. Ça fait très Tron
Legacy.
Ouais, moi, je
suis à fond sur les fringues, moi.
Mais ouais, donc il y a des choses à regarder. Je regarde ce qu'il y a à regarder, quoi. Tu vois. Et donc là, la carrière, il y a pas grand chose à regarder. Il y a des rochers, il y a des cailloux. Je trouvais ça un peu pauvre. Mais bon, pourquoi pas. On peut aimer les rochers, les cailloux, effectivement, ça rappelle la première série, très nostalgique.
Moi, je suis team Yasmine.
Bah, t'es team Yasmine, mais très bien, je respecte, tu vois, je suis dans le respect total.
Il y a un truc un peu chelou avec leur téléporteur du futur, c'est que vu que c'est très facile de se téléporter juste en appuyant sur un bouton, ça bousille un peu les mécanismes de combat en main en main, enfin un truc. Parce qu'à un moment, il se téléporte, Book se téléporte et il arrive à aller sur un rocher très loin, puis revenir et tout. Et je me dis, mais en fait, le combat, il ressemblerait à quelque chose de très différent si juste ils utilisaient leur téléporteur. Et ils l'avaient fait dans les premières saisons, dans le futur du futur. Il y avait plein de séquences comme ça, où il y avait des téléportations les unes après les autres et tout, pour échapper aux méchants, etc. Mais là, ils le font très peu. En tout cas, on n'explique pas pourquoi, quand il reçoit un truc sur la jambe, il trébuche et il tire la jambe et tout pour marcher. Alors qu'en fait, il pourrait juste téléporter à un kilomètre, reprendre ses esprits et revenir, quoi.
En fait, 30 secondes après, quand Michael réessaye de le faire,
à l'intérieur,
de se téléporter,
ouais,
ça marche pas à cause de la roche, je sais pas quoi, donc elle dit une excuse, mais ça n'empêche pas que quelques secondes avant, elle aurait dû avoir le réflexe, effectivement, de se téléporter tout de suite, quoi. Et elle ne l'a pas eu. Et c'est vrai que c'était très étrange. Mais c'est souvent des trucs comme ça. Par exemple, moi, quand ils font une espèce de réunion Zoom ou Skype ou Teams ou ce que vous voulez en hologramme, je veux dire, mais à partir du moment où c'est si facile de se téléporter, pourquoi ils utilisent encore des hologrammes pour se parler alors qu'en fait ils pourraient se téléporter d'une pièce à l'autre ?
Non, mais attends, je veux bien me téléporter pour me retrouver dans une salle à discuter pour un meeting. Je préfère le faire de chez moi, quoi. Sérieusement, n'importe quoi. Là, si je te disais, il faut que tu te téléportes, qu'on s'assoit tous dans mon salon pour enregistrer le podcast, hein, ou tu peux rester tranquille chez toi dans ton canapé pour faire l'enregistrement. Moi, je reste tranquille chez moi dans mon canapé. Hein.
Imagine, c'est des réunions super secrètes, elles pourraient très bien être écoutées, tu vois, interceptées.
Mais tu vas dans la salle magique là, qu'ils ont, là, la salle blanche, la salle de l'infini. Là.
Ouais, voilà.
La salle de Matrix.
La salle genre invincible. Ouais. Ou Matrix, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est Matrix aussi. Hein.
Moi, j'ai adoré la scène quand Burnham va vers les monstres sans phaser et tout, et pour essayer de communiquer, et que les monstres la mangent d'un coup, et en fait, ça est la fin de l'épisode. C'était extrêmement inattendu.
Fin de la série.
Et en fait, c'est une décision que je peux respecter, tu vois. Juste, meuf, qu'est-ce que tu fais là? On sait pas s'ils sont. Si c'est une espèce qui peut communiquer, en fait, qu'est-ce que tu fais? Enfin, après, elle aurait pu googler, tu vois, un peu, mais...
C'est ça! Pourquoi? Attends, tu te retrouves dans un canyon, t'es en train de marcher, et t'entends un truc qui... Moi, ma première... Et quelqu'un te dit, ah ouais, c'est un blablabla. Mon premier réflexe, ce serait de sortir mon téléphone et de faire... 3615 Google.
Mais ouais.
Qu'est-ce
moi, je
que
pense
c'est que
vous
ce
avez,
machin.
Vous avez complètement raison maintenant que vous le dites. Il aurait fallu faire un message en début d'épisode ou à la fin. Ne faites pas ça chez vous. Surtout si un jour vous rencontrez un animal sauvage dans la nature, ne faites pas la même chose, quoi. Vous vous éloignez, vous le regardez mais pas dans les yeux, vous vous éloignez sans courir. Et en fait, il faut lui faire face sans le croiser dans les yeux, tu vois, sans croiser son regard et s'éloigner doucement et en montrant effectivement qu'on n'est pas agressif et qu'on ne lui veut pas de mal. Mais il faut s'éloigner,
et, je veux dire,
faut surtout pas s'approcher.
C'est Trill, quoi. C'est Trill. C'est pas une planète inconnue, tu vois. Ça aurait été une planète inconnue. Bon, peut-être ils avaient pas les infos. Mais Trill, c'est un membre de la Fédération depuis genre 3000 ans. Et ils ont Zora sur le vaisseau. Et tu te dis, personne n'est capable de faire une recherche super rapide sur qui était Jinar, par exemple, qu'il était un spécialiste de cette espèce-là. Je veux dire, personne fait ses briefings, quoi. Genre,
mais tout le monde s'en fout déjà. Les trois, ils partent de la grotte, tout le monde laisse partir. Salut. Bon, bah, on y va, on va à la recherche de l'indice, et puis à plus, quoi. Déjà,
mais j'étais là, sérieusement, quoi. Et encore une fois, le fait que le lieu n'ait pas changé en 900 ans, comment est-ce que t'expliques que cette carrière, elle n'est pas changée en 900 ans, quoi. Alors, dans l'audience, dans le chat, hein, des gens qui disaient, bon, peut-être que, tu sais, le symbiote a travaillé à ce soit un parc national et que rien soit touché parce qu'il savait qu'il fallait protéger cet endroit-là et qu'il fallait protéger cette espèce-là. Mais prendre n'importe quel endroit sur Terre qui était sauvage il y a 900 ans, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore dans le même état.
Sauf les carrières. C'est tenace, une carrière. Une carrière, ça dure sur le long terme.
Justement, c'est pas vraiment tenace, une carrière.
C'est durable.
Un problème.
Et puis en plus, il y a encore les animaux qui sont là, quoi. Ils font encore leur vie dans la même carrière.
Ils ont leur vie dans le même endroit.
Clairement qu'ils le savaient. Voilà.
À 2 mètres du symbole, hein.
À 2 mètres du symbole, du pseudo-symbole.
Il y a des espèces qui, par exemple, encore maintenant, ont les mêmes migrations, les mêmes lieux de nidation, etc., depuis des millénaires. Donc ça m'a moins choqué. Mais le fait que la roche où il a planqué le truc soit encore là à 900 ans, que personne n'a jamais mis sa main dedans, que personne n'a jamais trouvé ce truc par hasard en 900 ans, ça m'a plus dérangé.
Personne n'a envie d'aller dans cette carrière, en fait, si tu veux. Il n'y a personne qui va dans la carrière.
Ah oui, parce que c'est trop dangereux.
Pourtant, elle est juste à côté de la grotte, quoi. Donc elle n'est pas vraiment isolée. Elle est à 800 mètres, je sais pas combien, tu vois, ils ont pas beaucoup marché pour y arriver, mais ça n'intéresse personne.
Après, c'est peut-être un lieu sacré et tu vois, qui est bon, ça, pourquoi pas, quoi. Mais ouais, enfin bref.
En fait, ils peuvent l'expliquer, mais ils pourraient nous le dire. En fait, Burnham est xénobiologiste.
Non, elle est xénoanthropologiste.
J'imagine qu'elle fait un petit minor en xénobiologie aussi. Tu peux pas être anthropologiste si tu n'es pas biologiste, hein, je dirais. Enfin, bref. Xénoanthropologiste, c'est-à-dire qu'elle n'étudie que les civilisations, civilisations extraterrestres et pas les animaux extraterrestres ou les choses qui sont pas civilisées. C'est ça? D'accord, ok. D'accord. En fait, ils auraient pu juste nous faire une phrase pour dire, ah oui, je sais, je les connais, je les reconnais, je sais comment ils fonctionnent, on peut se connecter à eux et tout ça. Enfin, ils auraient pu faire un truc pour nous expliquer qu'il y ait un semblant de scientificité derrière sa fulgurante épiphanie, qui d'ailleurs vient d'elle et pas du mec qui lui est capable de télépathie et tout. Enfin, mais. Et même pour le machin, parce que le mec, le Trill, là, qui est dans Colbert, et c'est possible qu'il ait gardé le bidule dans la main, en fait, et qu'il l'avait trimballé avec lui pendant leur...
Mais oui,
c'est ça, hein.
Il faisait semblant de l'avoir trouvé. Il était là, mais en fait, il était dans sa poche depuis le
c'est
début.
C'est ça, mais en fait, pourquoi ils nous disent pas ça, quoi? Enfin, je sais pas, ils nous laissent imaginer qu'il était sous un caillou, quoi.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé donc de l'histoire de Saru avec son mariage, puis on regardera où est Tilly et Reynard pour la fin?
Moi, ça m'intéresse à fond parce que j'ai toujours été vachement intéressé par la politique de Star Trek. Personnellement, ils pourraient faire Star Trek UN et juste avoir des délibérations politiques et j'adorerais ça.
Mais ça serait bien si, par exemple, ils prenaient cette histoire-là, ils la faisaient courir sur un épisode entier et ils lui donneraient vraiment de la consistance, comme ce que tu disais, en montrant des choses, tu vois.
Je peux pas te dire parce que je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un épisode plus là-dessus avec sans doute un mariage ou quelque chose comme ça.
Ah, d'accord.
Mais moi, je trouve ça...
Tu dis que c'est un
teaser,
en fait.
Je trouve ça vachement plus intéressant d'ajouter encore des conneries de Vulcains qui sont pas d'accord avec des mariages hors de leurs espèces, parce que je trouve que c'est intéressant, ça continue sur l'idée de unification avec du coup cette planète où t'as deux cultures différentes depuis on sait pas trop combien de temps, en fait, et de voir la politique de Nivar par rapport à la politique de Vulcain qu'on connaît de TNG, TOS, etc. Je trouve ça vachement intéressant de voir les machinations derrière. Moi, je suis convaincu que Led là, le gars bizarre là, et il est sans doute un puriste Vulcain aussi, et c'est pour ça qu'il trame des machinations par derrière. Ça me fait plaisir que cette histoire entre Saru et Terina soit pas juste une histoire d'amour avec un mariage et they live forever happy ou je sais pas quoi, happy forever again ou je sais pas quoi, et qu'il y ait des questions politiques, qu'il y ait des tensions ethniques sur Nivar, où on va en fait apprendre un peu plus et voir un peu ce qui se passe entre les Romulans et les Vulcans, quoi. Ça m'intéresse vachement personnellement, et ça me hint un petit peu, ça me donne faim un peu pour un épisode qui serait plus sur justement cette planète qui pour moi m'intéresse vachement quoi. C'est juste un mariage, ça va me faire chier quoi.
Ouais, je suis d'accord. J'espère que c'est ce qui va se passer, qu'on aura au moins un épisode de, comme tu le décris, parce que effectivement c'est ça moi que j'attends de voir plus que des scènes comme ça de couloir entre eux.
Je suis d'accord avec Giraffe quand elle parle des, quand tu parles de la politique et tout, ça m'intéresse aussi, mais je trouve que c'est pas assez complexe en fait. Ce qu'ils nous montrent, c'est tellement plat, c'est tellement minime, ça a pas, ça m'intéresserait en fait éventuellement, mais que ce soit un peu plus, enfin, qu'il y ait autre chose qui se passe, pas juste ces interactions là et ce niveau là très superficiel. Cela dit, alors le côté soap entre les deux personnages, j'en avais pas grand chose à faire en réalité, mais j'aime beaucoup l'actrice qui joue Trina. Je trouve qu'elle joue super bien et j'y crois, je crois en son personnage, et c'est rare hein, dans Discovery. J'ai vraiment l'impression que c'est une vraie personne et j'arrive à, enfin je suis pas même on parlait souvent de Spock dans Strange New Worlds, et est-ce que c'est un vrai Spock ou un faux Spock ou un autre Spock, etc. Mais là, je sais qu'elle n'est pas que Vulcaine, elle est aussi Romulienne, je crois, ou à moitié, ou en tout cas, on ne sait pas trop. Enfin, elle est le mix des deux. Mais au moins, je me demande même pas si elle est crédible ou pas, quoi. Je sais qu'elle est crédible et je trouve l'actrice super bien, beaucoup dans la retenue, mais sans être dans l'excès. J'aime bien. Donc pour moi, ces interactions servent quand même à la montrer elle, et elle me plaît beaucoup.
Ok, bah tu vas garder la parole et enchaîner sur la section avec Tilly et le commandeur Reyna. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est vrai que c'est un peu chelou quand même cette façon de faire, de rencontrer un équipage et de se faire reprendre ensuite par Tilly. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je suis un peu partagée. À la fois, j'ai l'impression de voir ce qu'ils veulent en faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un discours anti. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous dire que c'est un mauvais chef parce que il fait pas ami-ami avec ses collègues ou ses subordonnés dans un rapport hiérarchique et militaire. Et ça m'énerve. Et du coup, moi, Tilly, elle m'énerve un tout petit peu déjà de base. Hein, donc, j'ai du mal à empathiser avec elle. Mais là, aussi dans sa façon de faire, genre, oui, mais il faut que tu les connaisses, il faut que tu connectes et tout, ça m'emmerde. Mais en même temps, je trouve que, du coup, en fait, ils veulent nous dire ça, que c'est un mauvais manager, parce que le manager dans le monde corporate, il faut qu'il soit le meilleur ami de ses collègues, etc. Et donc, pour nous faire comprendre ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font un truc caricatural, où genre, ils leur demandent, allez, 20 mots, pas plus, genre, je sais pas quoi. Et là, c'est tellement dans la caricature d'un mauvais, entre guillemets, manager selon eux, qu'ils grossissent le trait et ça devient débile. Donc, au final, l'idée derrière m'emmerde, la façon avec laquelle ils la font m'emmerde, mais au final, j'aime bien ce personnage, parce qu'il est bien joué, comment il s'appelle, Reyna, et j'ai l'impression que c'est un espèce de Jellico, ils veulent en faire un Jellico, mais en fait, ils le font mal, voilà. Donc, je l'aime bien malgré tout.
Mais justement, à la fin, on a l'impression que quand même que l'épisode lui donne un peu raison, parce que Tilly, en gros, elle lui reproche de pas avoir connecté, de pas vraiment connaître les membres de l'équipage, et lui démontre qu'en fait si, parce que il a fait ses devoirs, et puis que le peu qu'il a pu assimiler, sa façon de faire à lui qui lui correspond à lui, bah peut-être elle lui suffit en fait, et peut-être que sa façon de faire, elle est ok pour lui, et du coup que ça lui permettra de bien faire son boulot par la suite. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Moi, ce qui m'a plu, ou en tout cas ce qui m'a le moins déplu, c'est justement tout ce qui concerne le capitaine Rayner, alias Callum Keith Rennie. Pas parce que c'est un acteur associé à Battlestar Galactica, même si je dois avouer que dès que j'entends le mot Galactica, mon cœur fond un petit peu. Mais objectivement, c'est quand même un personnage intéressant, et je trouve que son arc narratif dans l'épisode est intéressant, parce que ça m'a rappelé finalement que la série est vraiment plus sur son territoire quand il s'agit de sentiments, quand il s'agit d'émotions et de relations entre les membres d'équipage. Tout le reste, finalement, c'est du remplissage. Les intrigues principales, on s'en fout un petit peu. La fédération, etc., les origines de l'humanité, de la vie dans la galaxie, c'est vraiment pas ce qui intéresse les scénaristes, clairement. Mais par contre, les relations humaines entre les personnages de l'équipage, c'est quelque chose qui est un peu plus solide dans la série, parce que c'est une série quand même avant tout sentimentale, me semble-t-il, c'est la plus sentimentale de toutes les séries Star Trek réunies. Et donc d'avoir ce personnage qui a du mal à établir le contact et avoir des relations humaines, ben il me semble que c'est un peu plus pertinent comme sujet pour Star Trek Discovery. Et surtout aussi d'avoir Michael comme ça qui se reconnaît en lui, ça m'a rappelé, ben effectivement, elle a commencé comme ça dans la saison 1, au début de la saison 1 surtout. Elle se reconnaît en lui parce qu'elle aussi était rebelle et revêche. Elle aussi avait du mal à entrer en contact humain avec ses pairs, avec les autres êtres humains en face d'elle. Elle aussi avait du mal à se soucier d'eux, elle aussi avait du mal à se mettre à leur place. Et donc c'est bien parce que la série quand même retrouve un peu une thématique qui était la sienne initialement, en grande partie, et que ça pourrait permettre peut-être d'ici la fin de la saison de boucler la boucle quelque part. J'ai toujours trouvé dommage finalement que Michael devienne capitaine aussi vite, et que finalement tous ces aspects revêches soient un peu, pas entièrement, mais quand même beaucoup mis de côté. Et donc, ben ouais, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir ce personnage qui permette de lui faire écho à la personne qu'elle était autrefois. Voilà, donc à voir, ce n'est que le début de la saison, mais cet aspect-là quand même, même s'il est exagéré, même si on a du mal à voir comment il a pu être capitaine d'un vaisseau spatial pendant des années, s'il a vraiment du mal à ce point-là à établir du lien avec les membres de l'équipage et à les laisser parler plus de 20 mots, c'est quand même compliqué effectivement d'être manager dans ces conditions. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis bon, voilà, j'aime bien aussi les scènes dans les bars, je dois dire. C'est quelque chose qui me plaît. C'est un peu le cliché du bar qui permet d'établir des relations humaines, mais après tout, c'est pas entièrement faux. Et ça me rappelle la bonne époque de Picard, Guinan et les autres derrière leur comptoir. Deep Space Nine également avec le Ferengi là, qui sert on ne sait trop quoi. Voilà, donc j'aime bien les scènes de bar dans Star Trek en tout cas. Ça me fait plaisir.
Personnellement, j'ai été plus intéressé par B-plot que par le A-plot. je trouve le personnage de Renard juste génial. Ça apporte. Il est compliqué. Il réagit de manière auquel je m'attendais pas forcément aux choses. Et j'aime bien le fait qu'il apporte un leadership complètement différent que de celui de Burnham. Mon seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont tous essayer de le rendre très kumbaya, one of us. Tu vois. Alors que il apporte une vision complètement différente du leadership. Et c'est un gars, c'est un capitaine qu'on a vu. C'est un peu un capitaine qu'on aurait vu sur DS9, un capitaine pendant la guerre de Dominion. Tu vois, quelqu'un qui est forgé dans des temps difficiles, qui fait confiance à son équipage, mais c'est un gars là, il est en red directive quoi. C'est le seul qui a gardé le nez sur le travail en fait. Il a attends, il se passe un truc complètement compliqué. Je vais garder le nez dessus et tout le monde est là. Il faut que tu rencontres tout le monde. Et oui. Tu vois, c'est aussi, c'est un peu le leadership à l'américaine, tu sais, où ton boss, ça doit être ton ami. Et moi, en tant que française, ça me fait délirer parce que j'ai pas envie que mon boss soit mon pote, quoi, tu vois. J'ai besoin que mon boss, ce soit Reinhardt, quoi, qu'il me dise quoi faire, qu'il soit d'accord, qu'il soit pas d'accord, que quand on ait des meetings, ce soit 20 mots et qu'on soit pas là pendant 30, 40 minutes, 50 minutes à boire le café, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que Burnham l'a fait venir sur le vaisseau parce que il a justement une technique différente. Elle lui oblige à avoir ses rendez-vous alors qu'il veut absolument garder le nez sur ce qui se passe. C'est un peu aussi, il est un peu boomer quoi, il n'a pas compris que Zora pouvait le faire pour lui. il se fait confiance en lui-même. Mais on a déjà vu que c'est un excellent leader. Parce que si tu veux, quand Adira et Tilly essayaient de trouver comment désamorcer les drones, hein, c'est lui qui leur donne en fait un peu le push dont elles avaient besoin pour arriver à trouver la solution. Donc on sait qu'il a un système de leadership qui fonctionne. Les 20 mots, moi ça m'a fait délirer parce que tu me demandes de dire quelque chose sur moi en 20 mots que tu sais pas, c'est un exercice qui est vachement intéressant en fait. Tu vois, sur ce que les gens vont répondre, c'est vachement intéressant. Le truc c'est que je sais pas, Tilly qui pousse, qui est, tu vois, toute émotionnelle par rapport à ça. Enfin, d'un côté, c'est ton supérieur hiérarchique, quoi. Enfin, tu vois, t'es pas chez Mémé, quoi. et le truc qui m'angoisse un peu, maintenant qu'on peut en parler, c'est ce côté très on est spécial, on est différent. On est une famille, on s'aime tous les uns les autres, tu vois. Ça fait grave peur parce que si tu regardes ces trois derniers épisodes là, Burnham elle arrête pas de parler de, elle va trouver un higher purpose et elle est en train de chercher pour la, tu vois, la vraie raison des vraies choses et de connecter.
C'est la secte Discord.
Et c'est grave, mais oh, sérieux, et de connecter avec quelque chose de plus grand qu'elle. Et j'ai qu'une seule angoisse, c'est que il me la fasse à la Cisco, quoi. Que il me la send à la fin et qu'elle devienne qu'elle parte avec les prophètes, là. Parce que moi, je n'en peux plus des capitaines ou des personnages noirs qui deviennent magiques, là. Je n'en peux plus.
Sûr.
J'ai besoin de gens normaux. Mais c'est là où aussi le truc, c'est ce que je vous disais avant qu'on commence le podcast, c'est que Soneko Martin Green est ultra religieuse. En étant productrice de la série, moi j'ai super peur qu'elle infuse dans cette saison 5 cette destinée pour Burnham de devenir un être hors du commun, d'aller rencontrer le grand koala. Et le problème que ça me pose, c'est que déjà on nous a privé de Cisco, parce que maintenant que Cisco est parti, il peut pas revenir, il a plus d'histoire, tu vois ce que je veux dire. Kirk, il a eu une histoire en tant que vieil homme, quoi, tu vois, en tant qu'admiral, il a eu toute son histoire, il a eu sa fin, etc. Janeway, pareil, on voit le personnage qui continue à se développer dans d'autres séries, on voit même Archer, où on continue à entendre des choses que Archer a fait après Enterprise, dans, tu vois, qu'il est devenu président, etc., etc. Mais Cisco, avec son départ, il part avec les prophètes, avec les prophètes et c'est fini, tu vois. Il est parti. Il n'y a pas de Cisco admiral, il n'y a pas de Cisco qui fait... On peut plus écrire sur Cisco. Cisco, il est parti. Et s'ils font avec la même chose pour Burnham, et ben, encore une fois, on nous prive d'un personnage et d'une représentation dans les capitaines de Star Trek, parce que ben, ils sont devenus magiques, quoi. Comme Guinan, quoi. Et j'en ai marre de ce trope américain, là, du noir magique, tu sais. Je sais pas comment t'appelles ça en français, mais ils savent tout.
On n'appelle pas ça, nous. On...
Ils assènent,
mais
tu vois.
Mais girafes, ils vont faire ça.
Et ça me saoule.
Ah, je sais pas.
Ça me saoule.
Maintenant, vous me faites vraiment flipper. Parce qu'il y a Manu qui me parlait de
Manu,
ça,
hein.
Déjà.
C'est la théorie de Manu. Ouais.
Et maintenant, je flippe. Je flippe parce que moi, dans ma tête, Michael Burnham, elle serait apparue en caméo dans Starfleet Academy en tant que capitaine. Tu vois, enfin... Je la voyais déjà dans les années à venir faire des caméos, faire des trucs, enfin d'autres trucs comme Picard, comme Kirk et tout, tu vois.
Mais en fait, ils vont faire une histoire de voyage dans le temps, hein.
Honnêtement, moi personnellement, quand il y a eu une femme noire qui s'est assise sur la chaise de Captain, j'ai pleuré. Parce que ça fait 30 ans que je regarde Star Trek, hein, et même Uhura, juste en étant sur le pont, même si elle faisait rien, pour moi, c'était une lifeline. Ça m'a motivée à parler 7 langues, ça m'a motivée à faire plein de choses dans ma vie, à voyager, à devenir la personne que je suis. Et même si elle servait à rien dans le show, parce qu'honnêtement, elle n'a rien fait dans le show, c'était ultra important pour moi. Ça a vraiment décidé beaucoup de choses dans la manière dont moi, je voyais ma propre identité et ma propre représentation. Burnham, qu'elle soit un personnage que vous aimez, que vous n'aimez pas, que la manière dont elle est écrite ou qu'elle n'est pas écrite, comme Cisco, ce sont des personnages dans l'histoire de la télévision qui sont ultra importants par rapport à comment les fans regardent la série, comment aussi les gens, si tu veux, voient leur identité personnelle représentée dans une série qui leur est importante. Pour moi, Star Trek, c'est important. C'est une grosse, grosse partie de ma vie. Le fait que Burnham, elle existe, même si tu veux, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle fait, et bien sûr, c'est une histoire, et bien sûr, c'est des scénaristes, c'est ultra important de l'avoir, elle, en position de leadership. Parce que chaque pas est important. Chaque pas est important. D'avoir une femme en position de leadership, une femme noire en position de leadership à la télé, ça m'ouvre. Moi, qui suis en position de leadership aussi dans ma vie personnelle, ça m'aide à exister dans le regard des autres. Et qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, de faire disparaître ce personnage, c'est très compliqué pour Star Trek, parce que, encore une fois, pareil qu'avec Cisco, on ferme complètement la possibilité d'avoir un personnage qui revient dans notre série, que ce soit la même actrice ou que ce soit une autre actrice, ou que ce soit même des personnages qui parlent d'elle dans d'autres séries, ou qui juste laissent apporter, même pour un recasting ou une autre série, d'autres personnes qui écrivent, tu vois, c'est important de laisser ces portes ouvertes. Le fait que dans Picard, on apprend dans un décor que Uhura a été capitaine du Léon de Grance jusqu'à ce qu'elle ait presque 100 ans, bah c'est important, ces histoires-là. Donc bref, ça m'angoisse.
Bah je partage ton angoisse.
Giraffe, je comprends absolument ton angoisse et je la partage, et je pense que malheureusement ils vont c'est teubé, ils vont probablement faire un truc similaire, mais en pensant qu'ils font bien, en pensant qu'ils lui donnent une bonne un bon départ, tu vois, et j'espère qu'ils vont pas faire ça, et j'espère que c'est pas ce que, comme Manu imagine, c'est-à-dire que c'est ma Burnham qui remonte le temps et qui crée la vie c'est elle les fondateurs, parce que c'est elle, enfin comment dire,
c'est elle le koala,
mais c'est elle qui est à l'origine de la création des humains et des humanoïdes.
Ouais, et ça, et si
coup,
tu veux,
elle devient elle-même Dieu, quoi.
Je le vois bien comme un truc qui ferait triper Sonequa Martin Green, tu vois, là-dessus. Et honnêtement, moi, personnellement, j'ai pas envie. Déjà, le problème avec les progéniteurs et le fait que c'est du intelligent design, quoi, que tu vois, on n'est pas des produits de l'évolution, mais parce qu'on est tellement extraordinaire, on a été créés nous-mêmes. Non, non, c'est grave, c'est des propos créationnistes. Et on sait aux États-Unis que c'est extrêmement problématique pour les scientifiques d'avoir des gens qui continuent à pousser cette idée que non, les êtres humains, nous, on est différents. Nous, on n'est pas pareil. Nous, on est spéciaux. Nous, on a été créés par quelqu'un. Non, on n'a pas été créés par quelqu'un. On n'est pas spéciaux, on n'est pas on n'est pas plus incroyable que n'importe quelle vie sur que quelques vies sur la planète, et c'est vraiment problématique que Star Trek s'attaque à ça. Moi, j'avais qu'un espoir, c'est qu'à la fin de la série, ils nous disent tu vois, psych, c'était pas vrai. Tu vois, en fait, les progéniteurs, c'est un gros scam, etc. Mais plus ça va et plus j'ai l'impression que plus j'ai l'impression que ça va être une connerie
bien.
À la Kumbaya où on va avoir un sacrifice ultime et elle va devenir un ange, quoi, tu vois.
Elle pourrait devenir un ange.
Ça me saoule.
Elle pourrait le faire comme dans Galactica et devenir un ange.
En fait, à chaque fois, dans la série, qu'ils disent « Mais vous imaginez le pouvoir que c'est, ça a créé la vie. » Et je suis là « Mais non, ça n'a pas créé la vie, ça a créé les humanoïdes, mais pas la vie. » Enfin, qu'est-ce que tu racontes, ça a créé la vie sur les plantes et tout ça, c'est pas la... Et en fait, et vous aviez déjà un truc qui s'appelle The Genesis Device. En fait, il y avait déjà un truc qui crée la vie, littéralement. Et ça, c'était il y a très très longtemps et tout, et c'est pas mystérieux, c'est pas mystique, ça fait pas de vous des dieux ou quoi, ça vous fait pas questionner sur votre rôle dans l'existence. Pourquoi ça, juste les humanoïdes sans la vie, ça vous fait vous questionner sur le rôle de, enfin, my gosh. J'espère que ça va pas arriver, mais je pense que ça va arriver, mais j'espère que ça va pas arriver.
Ok, on en touche du bois. Et bien, sur ces bonnes paroles bien déprimantes, on va arrêter le podcast. Et avant de se quitter, c'est la section promo ou reco. Est-ce que vous avez quelque chose à promouvoir ou à recommander?
Je peux recommander mon podcast à moi. si vous parlez anglais, on est live tous les jeudis soirs. Alors bon, pour les Français, c'est genre à 2h du matin, mais à 9h30 sur l'heure de la côte est. Et donc, on est sur YouTube, Strange New Pod. Et on fait nos revues de tous les épisodes de Star Trek. Et et puis bientôt, c'est les 15 ans de Star Trek O9. Donc voilà, on va faire des trucs un peu spéciaux.
Ah, cool. Et toi, Yasmine?
J'ai pas de promo. Rocco, je sais pas trop si je recommande. J'ai écouté la Rocco du dernier épisode du cadran pop j'ai commencé à regarder Constellation, qui est une série Apple TV, qui s'inspire beaucoup apparemment d'un épisode de TNG, donc j'ai envie. Mais pour l'instant, ça m'emmerde profondément. Enfin, ça m'emmerde. C'est très lent, c'est un thriller en fait, et du coup t'es là dans l'expectative pendant tout l'épisode et tout, je sais qu'il va se passer un truc, mais il se passe pas, et moi ça c'est pas la SF, la meilleure SF, enfin c'est pas mon SF préféré, quoi, donc bon, je vais continuer, mais je suis pas hyper hypée pour l'instant. Voilà, donc je recommande pas vraiment, mais on verra bien.
Je recommande Fallout.
Je regarde pas parce que maintenant il y a des pubs sur Prime. Donc...
Fallout, c'est l'adaptation du jeu vidéo.
Ouais,
d'accord.
Ça vaut le coup de regarder.
Mais bon, il y a quel McLachlan dedans, alors je vais peut-être regarder quand même. Sinon, pour ma part, sachez que les podcasts du Cadran Pop et du Coin Pop, du coup, sont sur YouTube depuis peu. Donc maintenant qu'on peut mettre avec le flux RSS tous nos podcasts sur la chaîne YouTube du Coin Pop, on est là-bas. Vous pouvez nous écouter et nous laisser des commentaires sur chacun des podcasts et mettre des pouces et vous abonner, enfin tout ça, quoi. Et aussi, vous sachez que la semaine prochaine, le week-end prochain, donc le samedi, je serai en dédicace au festival Le Zine à Metz, qui est le festival off du livre à Metz. Donc ça sera, moi j'y serai là-bas le samedi après-midi, donc c'est à la Dame Jeanne, 24 place du Carteau à Metz. Et le dimanche, je serai donc là au Festival ON toute la journée sur le stand de Momi BD, et c'est place de la République à Metz, donc je vous y attends pour parler de Star Trek et pour que je vous fasse des jolies dédicaces dans les BD que vous pourriez m'acheter. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, de mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires là où vous nous écoutez, et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord qui est directement disponible à partir de notre site podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité.
Salut!
Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Land Rider, L-A-N-D plus loin, R-I-D-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées.
Bonus.
Trax.